Jean-Paul Bennetière intervient sur...
Des séquences à l'intérieur. Donc, j'ai dégagé six séquences. Donc, séquence 1963-1965. Je reviendrai sur chacune de ces séquences, bien sûr. Séquence 1966-mai 1968. Séquence mai 1968-1973. Séquence 1974-1977. Séquence 1978-1981 et séquence 1981-1984. Alors, si on reprend la séquence 1963-1965, je reprends deux choses très importantes, c'est la grève des mineurs et la grève de la SFAC en 1964. Dans les deux cas, l'UD... à l'époque, qui est l'UDC-FTC, qui n'est pas encore l'UDC-FDT, participe au mouvement tout en étant minoritaire. Mais en 1964, l'UDC-FDT est à l'origine d'un colloque qui réunit un certain nombre d'organisations, à l'exception de la CGT, et ce colloque dresse un tableau des objectifs indispensables pour le redressement de l'économie stéphanoise et la sécurité de l'emploi. Et donc, je reprends ici ce que disait Alban à l'instant. Et dans la même veine, une année plus tard, l'UD-CFTC va publier un programme pour l'amélioration économique et sociale de la région stéphanoise. Et alors, je vous ai mis ici un tract, parce que ce programme, on l'a trouvé aux archives dans un tract qu'Alban avait photographié. Donc on a collaboré dans notre travail. Et voilà. Alors, que préconise à ce moment-là le programme de l'UDC-FDT? Alors, première chose, et c'est quelque chose qui va revenir très régulièrement, la poursuite du désenclavement de la région. L'implantation d'industries nouvelles par la décentralisation autoritaire d'entreprises nationalisées ou d'économies mixtes. Développement de l'enseignement technique et professionnel et de l'enseignement supérieur. Construction de 100 000 logements par an, principalement des HLM. À cette époque, la situation du logement est catastrophique dans la Loire. Réaménagement à terme de la région stéphanoise par l'extension des zones industrielles et la création d'une ville nouvelle près d'Andrézieux-Boutéan. Alors, ça, c'est... Voilà ce programme. Mais la séquence est également marquée par un autre événement très important, c'est la déconfessionnalisation de la CFDT, qui devient la CFDT en novembre 1964. Et l'UD-CFTC fut un acteur impatient de cette évolution. Et l'idée, c'est que cette évolution va lui permettre de se renforcer. Et c'est ce qui se passe effectivement, puisque, en fait, elle augmente ses adhérents entre 1963 et 1965, malgré la scission de ceux, justement, qui ne veulent pas évoluer et qui restent à la CFTC. On va passer maintenant à la séquence mai 1966-mai 1968, et il va y avoir un basculement, et un basculement qui vient de l'accord d'unité confédérale entre la CGT et la CFDT, qui survient en janvier 1966. Et cette période, qui va de janvier 1966 à mai 1968, est marquée par cette unité d'action interconfédérale dont l'UDC-FDT est un ardent partisan. Elle participe à toutes les journées, mais elle ne se contente pas de participer à toutes les journées. Elle émet assez régulièrement des critiques contre ses partenaires ou bien contre sa propre confédération qu'elle ne trouve pas assez... pas assez allant, on va dire, pas assez actif, dont les modes d'action lui semblent insuffisants. Et en particulier, elle essaye, sans y arriver, de ne pas limiter les journées d'action à ce qu'elle appelle des journées sans lendemain. Elle... Il y a en même temps que cette unité des divergences politiques à cette époque entre les deux confédérations. Et l'UDCFDT est une des UD qui va faire pression sur la confédération pour la poursuite de cette unité d'action malgré les divergences qu'il peut y avoir. Comme je garde en fil le problème de la crise économique du bassin stéphanois, les deux UD, CGT et CFDT, lors des journées du 17 mai et du 23 mai 1966, inscrivent le développement du chômage dans le programme de revendicatif. Alors, développement du chômage à cette époque, du fait des licenciements déjà réalisés dans les mines, qui commencent dans le textile et dont on prévoit dès cette époque qu'ils vont continuer, et puis qu'on prévoit déjà dans la sidérurgie, du fait que la formation de la CAFL, de la CFL, a déjà introduit un certain nombre de licenciements, et dont le préfet, d'ailleurs, à l'époque, prévoit que ces licenciements vont continuer. Alors, cette séquence, en fait, d'unité d'action interconfédérale, elle va être brutalement stoppée par le mouvement de mai-juin 68, à laquelle, je crois, les dirigeants... Alors, pour la CGT, je ne me prononcerai pas, mais pour l'UDCFDT, je ne pense pas que les dirigeants avaient vu arriver le mouvement avait vu arriver mai 68. Alors, toujours est-il que l'UD appela et participa à la grève et aux occupations, et en se voulant à la fois le porteur de l'unité ouvrier-étudiant et puis de la lutte pour le contrôle ouvrier dans les entreprises. L'autogestion, appel de la CFDT du 16 mai 68, contrôle ouvrier, traduit dans la Loire par contrôle ouvrier dans les entreprises. Elle soutient l'appel de la Confédération à Mendès France le 29 mai 1968 et en juin, au moment où la reprise est amorcée, elle soutient la poursuite de la grève des métallurgistes. Alors, toutes ces positions entraînent à cette époque des conflits avec la CGT, qui n'est pas sur ces bases-là. Mais, comme le dit un mémoire, bon, je vais un peu vite, donc je ne vais pas citer l'auteur du mémoire, sans infléchir vraiment le mouvement stéphanois, vu que, bon, ça rejoint aussi ce que disait Alban, vu que le rapport de force, en fait, entre la CGT et la CFDT est très nettement à la faveur de la CGT. Alors, à la fin du mouvement, elle va conclure un peu hâtivement qu'une révolution est en route, une révolution dont n'ont pas voulu la CGT ni les partis de gauche. Et elle va se prononcer pour d'une belle formule, le socialisme à base d'autogestion en 1969 au congrès de Saint-Étienne. Alors, je reprends là encore ce que dit Alban. Dans les années, moi je disais 70-73, mais j'ai fait confiance pour dire plutôt 71-73, le bassin stéphanois connaît beaucoup de luttes. Et là, l'UD, pendant ces 3 ou 4 années, va tenter de pousser ces luttes au maximum. Le terme de lutte est un mot de la CFDT. C'est-à-dire qu'on dépasse les grèves ou les débrayages. On parle, à ce moment-là, il parle des luttes et va tenter de les pousser au maximum, quitte à s'opposer de différentes manières à la CGT. Par exemple, en refusant de s'associer à certaines journées d'action. Par exemple, en tentant, encore une fois, de ne pas limiter les actions à des journées, mais de mettre en place des réunions avant pour en discuter et d'essayer de les poursuivre, en tentant de mettre en place dans les grèves des assemblées générales pour discuter des revendications et des modalités d'action, et en soutenant parfois certaines luttes avec des membres d'organisations d'extrême gauche. Mais l'idée de la crise du bassin stéphanois est encore présente, puisque dans cette période, on note encore une lettre de la CFDT au préfet pour lui dire que vraiment les pouvoirs publics, au niveau de leur stratégie pour l'implantation des industries dans la région, ils sont vraiment pas forts. Alors le préfet répond que c'est une critique facile. Alors, il n'empêche que un article du Progrès du 7 mai 1971, qui rend compte d'une réunion du comité d'expansion de la Loire, fait bien sûr état de la création de 20 000 emplois nouveaux dans les 12 années précédentes, mais en même temps de la suppression de 20 000 emplois. Ce qui veut dire que la question se pose bel et bien. Alors, il va y avoir un début de rééquilibrage des positions de l'UDC-FDT en 1973, je dis après l'échec de la grève de Peugeot. Après l'échec de la grève de Peugeot, l'UD rééquilibre ses positions sur deux points. D'abord, elle réaffirme le rôle des sections d'entreprise dans la conduite des luttes. Et puis, elle insiste aussi sur la nécessité de revenir à la politique et d'articuler les luttes à la politique, alors qu'elle s'en était peu occupée là, dans les trois années précédentes. Mais il faut dire que ça s'explique par deux événements politiques majeurs qui se sont passés dans ce moment-là. C'est qu'il y a eu la création du nouveau Parti socialiste en 1969 et 1971, puis la signature du programme commun de gouvernement en juin 72, et que ces deux événements entraînent un renforcement du Parti socialiste au niveau national. Dans la Loire, c'est peut-être un peu moins vrai. J'en ai discuté avec certains militants, mais c'est peut-être un peu moins vrai dans la Loire. Mais au niveau national, il y a un auteur a employé le terme de « dépsuisation ». C'est-à-dire que beaucoup de militants de la CFDT qui appartenaient au PSU passe au Parti socialiste dans ces années-là. Il me reste 5 minutes, merci. Et j'embraye sur la séquence 1974-1977, qui va être une séquence politique. En mars 1974, l'UD définit une stratégie politique qui consiste, d'une part, à ne pas se rallier au programme commun, malgré de la pression de la CGT, mais à favoriser le succès de l'Union de la gauche tout en développant une mobilisation populaire et la formation de ses militants à l'analyse marxiste, parce que le but reste de construire le socialisme, alors que pour la CFDT, le programme commun, c'est pas la construction du socialisme. Alors, cette stratégie et la pression des militants expliquent la décision de soutenir François Mitterrand aux élections de 1974. Ça ne marche pas. Puis de participer aux assises du socialisme qui voit une partie des militants de la CFDT, du PSU et d'autres organisations rentrer dans le Parti socialiste. Alors les dirigeants de l'UD-CFDT, qui étaient tous adhérents ou proches du PSU, tout le monde le préfet le dit et tout le monde en convient, décident, eux, de renforcer la gauche du PS en adhérant au CRS. CRS, c'était Chevènement à l'époque. Mais en fait, ça ne va pas marcher du tout, parce que cette opération des assises a été une opération ambiguë, je ne développe pas, et puis il y a des différences de culture militante, et puis il y a des différences idéologiques, et en gros, fin 1975, les dirigeants de l'UD et beaucoup et un certain nombre de militants qui étaient rentrés avec eux au CRS quittent le Parti socialiste. Voilà. Dans la même année, les dirigeants de l'UD participent à une contribution qui va être portée par la région Rhône-Alpes au congrès de la CFDT de 1976 et qui prétend clarifier les positions de la CFDT, dans le sens du socialisme autogestionnaire. Alors, la crise a commencé et l'UDCFDT, enfin, l'Union, cette motion, elle est portée par la région Rhône-Alpes, mais que l'UDC-FDT dirige à cette époque-là, et elle est portée par 5 fédérations de la CFDT. Et clarifier pour eux, ça veut dire clarifier les orientations, ça veut dire refuser toute gestion de la crise dans le cadre du capitalisme, développer la mobilisation et la conscience politique des travailleurs pour amplifier les luttes et affaiblir le capitalisme avant la prise du pouvoir, puis celle-ci s'étant opérée pour entamer la construction du socialisme et empêcher que ce pouvoir soit reconquis ou confisqué par une couche technocratique ou bureaucratique. Et puis renforcer la CFDT. Alors, cette orientation est rejetée par la direction et repoussée par le vote du Congrès. Mais, dans la même période, l'orientation syndicale ou professionnelle est très présente. C'est la période des grèves dont parlait Alban. Et la CGT et la CFDT en commun soutiennent les grèves offensives et défensives menées dans les entreprises et organisent des journées d'action sans conflit entre elles. À partir de janvier 1977, allaient succéder des opérations ville morte, justement pour lutter contre les licenciements. Et la séquence de la fin 1977 s'achève par une dénonciation de la rupture entre les partis de gauche, survenue le 22 septembre 1977, présentée comme un sabotage face à l'espérance des travailleurs. Donc, Serge me fait remarquer qu'il me reste une minute. Alors donc, mon intervention n'ira pas jusqu'en 1984. En gros, je vais vous en présenter les conclusions. Ah zut. Donc, ce que je peux dire dans la minute qui me reste, c'est que l'UDC-FDT a effectivement pris en cause, pendant toute cette période, la crise du bassin stéphanois et peut-être d'ailleurs plus généralement la crise de la Loire, mais la crise du bassin stéphanois, ses préconisations sur le désenclavement de la Loire, sur la création de zones industrielles et sur le développement de l'enseignement ont été reprises par les pouvoirs publics. Par contre, très peu de nouvelles entreprises se sont installées de manière durable. Ces stratégies, mais j'ai envie de dire les stratégies, les différentes stratégies, y compris les stratégies de la CGT, mais on parle bien des stratégies de la CFDT, n'ont pas empêché la disparition de pans entiers de l'industrie pendant cette période et que les emplois créés dans le tertiaire n'ont pas équilibré. Et en gros, la situation économique et sociale du bassin stéphanois s'est donc considérablement aggravée de 1974 à 1984, et ce qui a contribué à l'affaiblissement des syndicats de l'UDC-FDT, puisque dans les années 80, l'UDC-FDT va connaître une période de crise militante, de crise organisationnelle très importante. Voilà. Merci.